Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Laurent Mauvigné, continuez. Première partie, décidée. La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage, les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles, sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sibylle sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut 3 secondes pour les compter. Ils sont 8. Et 1 seconde de plus pour constater que les 2 chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour. Il ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère et, à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kirghizes, quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. Sibylle parle russe. C'est l'avantage d'avoir eu des grands-parents qui ont fui l'Union soviétique. Mais c'est comme si elle n'entendait rien de ce que lui dit l'un des types. Elle fixe un instant ses yeux bleus, son visage fermé, les autres avec leur tête noircie par le soleil et le travail. Mais qu'est-ce que c'est que leur travail? Sibylle sait qu'au Kirghizistan, voleur de chevaux est un travail qui a une tradition et une noblesse. Alors, pour l'instant, elle ne répond pas, ou seulement en posant d'autres questions. Et les autres ignorent si c'est seulement sa voix et son accent qui déforment les mots qu'elle dit, ou si c'est bien la peur, l'émotion, le danger qu'elle ressent. Pendant ce temps, Samuel s'est levé, il a empaqueté ses affaires. Il démonte sa toile de tente et lance des coups d'œil à sa mère. On regarde les chevaux qui broutent de la luzerne un peu plus loin, en se disant qu'il faudra se rapprocher. Mais pour l'instant, c'est le cercle des 8 hommes qui se referme, se rétrécissant, se précisant comme les questions qui fusent. D'où venez-vous comme ça? Pourquoi vous venez dans ce pays où il n'y a rien à faire? Pourquoi vous avez envie de marcher si haut dans les montagnes? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez et pourquoi une femme se promène seule avec un garçon si jeune? Vous n'avez pas de mari? Il n'y a pas d'homme avec vous, non? Et vos chevaux, ils ont l'air robustes? Vous les avez achetés où? À qui? Loin? Au marché, à Auch? À Bishkek? Sibylle et Samuel ne regardent pas le type pendant qu'il lance ses questions. Elle continue de parler en rangeant ses affaires, des gestes précis qu'elle ne pensait pas avoir déjà acquis. Elle pourrait faire le pactage les yeux fermés. Elle continue de poser des questions pour ne pas répondre à celles dont le débit se fait de plus en plus pressant. On a défait et rangé les tentes, scellé les montures. Samuel détache les chevaux. Les hommes ne disent plus rien. Ils ricanent, observent. On décide de descendre et de rejoindre les paysans qui travaillent plus bas, d'aller vers les fermes. On se le dit en français. Un instant, le français devient comme un mur épais et puissant pour se protéger des autres. Ceux-là qui maintenant parlent entre eux, ils se mettent à rire d'un rire mauvais et rageur. Quand Sibylle ouvre la marche, elle fend le cercle qui s'est fermé autour d'eux. Samuel la suit. Le regard des hommes qui les laissent passer est une barrière plus difficile à franchir que leur corps. Mais le cercle s'est ouvert et forme une ligne flottante. 8 hommes qui les regardent partir et les suivent longtemps. D'abord du regard, puis en marchant derrière eux, de plus en plus près. Ils ne lâchent pas si facilement. Ils insistent, toujours les questions sur les chevaux. Mais Sibylle ne répond plus. Elle murmure à Samuel qu'il faut continuer à descendre. Sa voix est si basse maintenant qu'elle chuchote comme si elle craignait que l'un des hommes parle français. Ce qui est absurde, bien sûr, elle le sait, peu importe, c'est plus fort qu'elle. On lui avait bien dit que c'était une connerie de partir avec son fils, comme ça à l'aventure, seulement tous les 2. Mais elle avait tenu bon. Elle avait répondu, « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je ne fasse rien et que je laisse Samuel plonger et lâcher prise complètement? Non, ça, c'est hors de question.